Pour parler du sujet, je n'ai aucunement les compétences de M. Oettinger. J'aurais pu aborder la question par divers aspects sur l'étude du nihilisme européen, qui est un sujet qui m'a intéressé dans une exposition qui s'appelle Iconoclash. Mais j'ai choisi plutôt... Il y a un problème de micro. J'ai choisi plutôt d'aborder une question qui a un rapport avec l'exposé précédent sur la flèche du temps. Je précise d'abord que mon contact avec le futurisme est assez faible, sinon par cette connexion historique que je suis né à Beaune, comme Étienne Jules Marais, l'inventeur du fusil photographique que vous voyez ici sur sa statue, ou plutôt en bas de son pédestal, devant la mise en sculpture des inventions cinématographiques de Marais, qui a joué, comme vous le savez probablement, un rôle très important dans la peinture futuriste, en particulier parce que Marais avait découvert une façon de décomposer le mouvement. Les Beaunois estiment assez peu Marais, malgré le fait que ce soit un de leurs héros tardifs, dans la mesure où Marais a oublié d'inventer le cinéma. Il a inventé le contraire du cinéma, c'est-à-dire la fixation du mouvement. Vous voyez en haut le mouvement de la mouette et en bas le mouvement du galop de cheval qu'on attribue souvent à Muybridge. Mais Muybridge lui-même reconnaissait que Marais avait bien avant lui découvert la façon de décomposer visuellement le mouvement du cheval. Mais ce que Marais n'a pas inventé, c'est le cinéma, puisque ce qu'il essayait de capter, c'est la décomposition du mouvement et non pas la recomposition du mouvement. Il trouvait que le mouvement, il en avait déjà bien assez. Il était lui-même physiologiste. Ce qui l'intéressait, c'est la décomposition. Et beaucoup d'études ont été faites sur l'usage et l'importance, en particulier d'Agonier l'a montré dans son livre sur Marais, comment le futurisme a utilisé cette série d'images comme celle-ci, par exemple, qui est une sculpture faite à partir d'une série photographique du vol de la mouette prise par Marais dans son fusil photographique et qui permet en quelque sorte de résoudre la question insoluble à la fois pour la sculpture et la peinture de peindre le mouvement. C'est la seule connexion avec le futurisme historique que je puisse avoir, et donc ça n'est pas sur le futurisme comme mouvement de l'histoire que je vais essayer de vous parler, mais plutôt aborder une question que le dessin de Pessin hier dans Le Monde me paraît bien capable d'introduire, cette petite difficulté, puisque c'est l'objet de la discussion, qui est l'avenir du futur. Vous voyez à gauche un de ces jardiniers équipés d'une de ces machines qui font beaucoup de bruit et qui dit dans un avenir plus ou moins lointain, ou plutôt c'est une voix off, non c'est lui qui parle, dans un avenir plus ou moins lointain, nos vieux souffleurs à feuilles mortes, lourds, pétaradants, polluants et inefficaces, seront sans doute remplacés par de nouveaux outils éco-compatibles, c'est-à-dire le râteau. Petite difficulté que nous avons toujours avec le futur depuis, disons, une quarantaine d'années, c'est de préciser si c'est le râteau ou le souffleur qui est en avant ou en arrière. Et la difficulté, le thème même, d'ailleurs, c'est amusant de célébrer les 100 ans du futurisme, c'est que précisément, plus personne, en gros, n'est capable de dire d'une multitude d'objets, ici il s'agit d'un exemple simplement humoristique, lequel se trouve en quelque sorte avant et lequel se trouve après. Donc la flèche du temps qui était relativement bien orientée et qui commence à s'orienter probablement effectivement avec le début en tout cas du 19e siècle, vous ne savez pas le rôle de Saint-Simon dans ce lien avec l'art, mais qui est bien plus ancien, je vais le montrer dans le cas des sciences, cette flèche du temps qui avance et qui définit un espèce de front de modernisation où des tas d'objets et d'attitudes sont clairement alignés du côté du futur et les autres sont clairement considérés comme du passé, ce qui permet de définir la carte politique, artistique, morale entre réactionnaires et progressistes, a subi, c'est évidemment l'événement postmoderne des quarantaines d'années, une modification assez complète puisque aucun de ces objets, aucune de ces attitudes morales, aucune des habitudes, aucune des technologies même, c'est l'avantage du dessin de Pessin de le rappeler, ne peut se situer le long de cette flèche du temps bien articulée. La flèche du temps est devenu plutôt un paquet de spaghettis dans lequel on ne sait pas si les objets sont devant ou derrière nous. Et c'est vrai, les attitudes morales, aussi bien que de l'esthétique, l'esthétique postmoderne étant évidemment typique de cette difficulté, mais aussi évidemment en technologie. Donc c'est plutôt sur ce problème que j'ai voulu discuter avec vous de la difficulté qu'il y a à reconnaître, au fond, pourquoi il est devenu aussi difficile de se reconnaître un futur, ou simplement de ranger les événements dans le long d'un gradient, disons, qui irait du passé au futur. Une des raisons de cette difficulté tient, c'est un peu ma spécialité, donc je m'excuse d'en parler, à la question des sciences. En particulier, le repère usuel pour définir la flèche du temps, et ça joue un rôle très important dans le futurisme, la technologie joue un rôle extrêmement important dans le futurisme, c'est l'aventure scientifique et technique. Et c'est elle qui permet de situer des objets dans le futur, des objets dans le passé. Mais justement, c'est un peu plus compliqué que ça, et la nouvelle histoire des sciences a un peu compliqué cette flèche du temps, même en sciences. Je vous donne juste un exemple entre mille. Il s'agit d'un carnet du 19 janvier 1610 de Galilée, dont on ne marque généralement que le haut de la page, qui est le début de ses découvertes avec le télescope, au moment où il commence à apprendre à dessiner les ombres de la Lune. Grand épisode d'histoire des sciences. Je le signale, c'est aussi un grand épisode de l'histoire de l'art, car, comme l'a montré très bien un grand historien d'art, c'est parce que Galilée sait dessiner les ombres et qu'il est capable de les interpréter comme étant les ombres de montagnes et de cratères. Et donc, c'est une grande histoire scientifique que la découverte, première fois que le télescope se tourne vers la Lune et que l'on s'aperçoit à la stupéfaction, ça c'est le récit héroïque, à la stupéfaction de tout le monde, que la Lune est un corps, non pas un corps supérieurement parfait à celui de la Terre, mais comme la Terre, avec des cratères, des vallées, des plaines. Mais ce n'est pas cette partie-là de l'histoire qui m'intéresse, c'est le bas de l'image. Le même jour, Galilée trace l'horoscope de Cosimo de Médicis. Donc on a toujours cette difficulté, quand on raconte l'histoire des sciences, et vous allez voir que ça a une influence directe sur l'histoire du futur, de savoir quelle histoire on raconte. Est-ce qu'on raconte l'histoire du haut de la page, c'est-à-dire que pour la première fois, le télescope dirigé vers la Lune, on rompt toute l'histoire que nous a racontée M. Ottinger tout à l'heure, est une histoire de la division, de la rupture. Avec quoi rompt-on et de quoi hérite-t-on? C'est ça la grande question. Première histoire de rupture, le télescope se lève sur la Lune et, à la surprise générale, un nouveau chapitre de la cosmologie commence. Et en même temps, si on raconte l'histoire en prenant en compte le fait que le même jour, sur le même carnet, Galilée trace un horoscope, on a une histoire qui est un tout petit peu différente. Galilée n'est pas en train de rompre, il est en train de continuer quelque chose de cosmologique, de cosmopolitique, pour prendre une expression que Isabelle Stengers a mise à jour, dans lequel à la fois, il s'agit d'une nouvelle atteinte, d'une nouvelle saisie du cosmos physique, et en même temps, le maintien, la continuation, la précision de toute une généalogie très ancienne que Galilée a aussi l'ambition de renouveler, qui est la pratique des horoscopes, et pas des horoscopes de n'importe qui, des horoscopes du prince dont dépend Galilée. Donc il s'agit aussi d'une activité d'homme de cour, comme l'a très bien montré Mario Biagioli dans son livre. Et donc, si l'on raconte l'histoire en ne prenant simplement que le haut de l'image, on a une histoire de rupture. Si on prend l'histoire en prenant la page entière, on a une histoire qui est celle, je vais utiliser l'expression plusieurs fois, d'attachement renouvelé, qu'il va falloir essayer de comprendre. L'hypothèse que je fais dans pas mal de travail que j'ai publié, c'est que la question du futur est directement liée à cette question d'histoire des sciences. si nous avons uniquement l'histoire du haut de cette page, on a une histoire de rupture, une rupture continuelle, c'est-à-dire que depuis la révolution scientifique, ensuite les révolutions industrielles, ensuite les révolutions politiques dont on vient de parler, ensuite les révolutions artistiques, l'histoire européenne ou l'histoire occidentale est une histoire de rupture. Disons, c'est le grand récit de ce que je vais appeler le grand récit d'émancipation. Si on raconte l'histoire des sciences et des techniques à partir de l'ensemble de cette page, c'est-à-dire le haut et le bas, on a une histoire très différente, une histoire que je vais appeler d'attachement. Et au fond, les futuristes sont un des très nombreux mouvements, probablement, je suis d'accord avec l'exposition de M. Oettinger, la plus intéressante du XXe siècle, en ce sens, peut-être probablement plus que ceux qui ont suivi, d'essayer de résoudre cette énigme. Comment hériter d'une histoire qui ne prend en compte que la moitié, en quelque sorte, de ce qui arrive? Comment hériter d'une histoire dans laquelle la flèche du temps n'est pas capable d'encaisser ou d'absorber les pratiques de ceux qui sont entraînés par cette flèche? Alors, pour essayer de résumer mon propos en quelques minutes, je me permets un diagramme extraordinairement limité qui couvre plusieurs siècles, mais c'est juste pour essayer de vous donner un sentiment, avec mes capacités Macintosh qui sont extrêmement faibles, du problème que des mouvements comme le futuriste, mais aussi toute la philosophie des sciences, une grosse partie de la philosophie des techniques, tout ce qu'on appelle le post-humain pour une période plus récente, essaye de résoudre. Vous avez à gauche le passé et à droite le présent, selon la convention habituelle. Et vous avez des étapes qui sont, vous occupez pas des étapes, elles sont parfaitement arbitraires, elles scandent simplement un certain nombre d'épisodes dans une histoire que les modernes ont de la difficulté à définir. Pourquoi ? Eh bien, si vous suivez les flèches horizontales et toute la liste des termes qui se trouvent à droite, vous avez l'ensemble des choses dont nous héritons. Nous héritons toujours. J'en ai souligné en blanc qu'un seul de ces héritages, qui est par exemple l'outillage découvert par nos ancêtres préhumains il y a bien longtemps, des centaines, peut-être même plus, 5 demi-millions d'années, et qui sont toujours avec nous. Après tout, nous utilisons toujours des marteaux, nous utilisons toujours des percuteurs, nous utilisons toujours des lances, etc., etc. Mais nous avons aussi hérité de l'ensemble de chacune de ces étapes, de cette histoire, qui n'a pas encore de nom, puisque c'est précisément le problème, c'est qu'elle n'a pas de nom, qui a multiplié, non pas simplement les outils, mais ensuite les techniques, c'est-à-dire les outils articulés, et ensuite les machines, et ensuite la technosphère, etc., etc., et qui a multiplié les sociétés, les empires, les méga-machines, qui est le terme que Lévis-Mumford utilise, les organisations, au point que dans la dernière étape, 11, peu importe les chiffres, c'est la planète entière qui se trouve activée, agitée par la transformation à la fois des sociétés et des organisations humaines et des sciences et des techniques. Le problème de cette représentation, de cette histoire, c'est qu'elle est très difficile à raconter d'un coup. Non seulement d'abord parce qu'elle est très longue, évidemment, mais aussi parce qu'elle tient en compte des éléments qui sont, dans la narration moderne, plutôt moderniste, incompatibles. Et donc, la difficulté, c'est que il nous est arrivé une histoire de mobilisation croissante des humains et des choses, pour le dire de façon simple, au point que, dorénavant, c'est la nature entière, l'ancienne nature plus exactement, qui se trouve mobilisée dans les activités humaines. Pensez au cas du réchauffement global, qui est un cas typique. Et en même temps, l'histoire que nous nous racontons, et en particulier l'histoire des sciences et des techniques, est une histoire d'émancipation de plus en plus, à une échelle de plus en plus grande. Donc nous avons une histoire d'émancipation et une histoire d'attachement qui sont totalement contradictoires et qui doivent néanmoins essayer de se conjoindre. Et les artistes, évidemment, sont parfaitement, particulièrement sensibles à toutes les époques, d'ailleurs depuis le début de la révolution scientifique, à cette aporie, à cette impossibilité. Ils ressentent, par les mille façons de leur propre médium, l'impossibilité de raconter l'histoire moderne. Et nous qui héritons de leurs propres avant-gardes, l'époque des avant-gardes est finie depuis une quarantaine d'années, nous avons maintenant leurs problèmes tels qu'ils étaient définis, par exemple, chez les futuristes au début du XIXe siècle, et un nouveau problème, c'est que le futur lui-même s'est trouvé, en quelque sorte, suspendu. Donc, je donne juste ici une petite récapitulation de ce schéma extrêmement naïf, d'une amplification de plus en plus grande à chaque étape de la mobilisation conjointe des humains et des choses. Donc ça, c'est la flèche du temps, j'allais dire, réelle. C'est ce qui nous est vraiment arrivé, d'après moi, tel qu'on peut le reconstruire en prenant à la fois l'histoire des sciences, des techniques, l'histoire industrielle, l'histoire économique, c'est-à-dire une amplification toujours plus grande et surtout un croisement de plus en plus intime entre les capacités des organisations humaines et la capacité des mobilisations des non-humains, pour utiliser mon vocabulaire, des technologies de plus en plus sophistiquées et des organisations de plus en plus vastes. C'est ça l'histoire réelle, le flux du temps, le flux de la transformation depuis la partie gauche du dessin. Vous avez des proto-humains, des singes un tout petit peu améliorés, qui laissent une toute petite trace sur Terre, jusqu'à à notre époque actuelle, qui est une amplification énorme de milliards d'humains qui mobilisent la totalité des forces productives de la Terre, si on voulait prendre un terme un peu marxien. Vous avez donc cette flèche du temps, mais ce n'est pas comme ça qu'on va raconter l'histoire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette difficulté de comprendre la modification de l'échelle dans la mobilisation conjointe des humains et des choses. Le drame de Marinetti, évidemment, le drame de Marinetti, on vient de nous le dire, si j'ai bien compris, sa villa est en face des ruines, c'est ça ?
Sa maison natale.
Sa maison. Oui. Comment hériter du sac de la bibliothèque d'Alexandrie ? C'est un drame déjà compliqué. Ensuite, être italien, c'est aussi un drame un peu compliqué. Comment vous héritez des beautés italiennes ? Il y a un moment à Rome où on devient, toute personne qui a passé un mois ou deux à Rome devient futuriste à un certain moment en disant « je me débarrasse de tout ça et je fais des parkings » ou « je fais plutôt des porte-avions ». Il y en a marre. J'ai parlé plusieurs fois aux malheureux qui sont à la Villa Médicis, des artistes de la Villa Médicis, écrasés par toutes ces grandeurs et ces beautés, etc. Il y a un moment, il faut dire, tabula rasa, on rase tout et on recommence. On fait du cube blanc, white cube, il y en a marre de tout ça. C'est un réflexe de santé, en quelque sorte. Mais le drame, c'est qu'en même temps, dans cette histoire compliquée, il va falloir tenir en compte non seulement la modification de l'échelle, mais la modification du nombre et de l'intimité des médiations entre les dispositifs techniques qui ont été inventés au cours de l'histoire et les humains. Et ça, on comprend bien que dans la culture du XIXe siècle, aucune ressource, même la dialectique hegelienne, ne permet de l'absorber. Je pense qu'une grande partie de ces mouvements souffre en quelque sorte de la séparation totale, cette fois-ci organisée académiquement, entre les mondes scientifiques et les mondes artistiques. La clé, le personnage clé, est en Baudelaire. Il existe un livre fort intéressant sur la façon dont Baudelaire traduit et transforme complètement Edgar Poe. Et on a là probablement un tournant qui est un peu avant la période dont nous a parlé le professeur Langer tout à l'heure, mais qui a un rapport avec notre question. Poe est un de ces rares artistes, il est lui-même ingénieur, il sort de West Point, qui essaye de tenir ou d'inventer un type de discours qui tienne à la fois les formidables transformations techniques et les formidables transformations sociales. Il est traduit par Baudelaire et Baudelaire en crée la dichotomie entre l'invention du modernisme, cette fois-ci, pas dans mon sens, mais au sens de l'histoire de l'art, la dichotomie complète entre une histoire technique d'un côté, qui va d'ailleurs rejeter, il ne va même pas traduire le livre important de Poe sur cette question, et ce qui va devenir le modernisme en art. Il n'y a pratiquement pas de ressources à la fin du XIXe siècle pour tenir la capacité simultanée de la mobilisation des hommes et des choses. Si vous voulez, je cherchais un autre diagramme pour essayer de faire comprendre l'argument, cette fois-ci peut-être plus hegélien que les autres, cette espèce d'énorme spirale par laquelle qui est déjà très importante au XIXe siècle, mais on est encore avant la guerre de 14, on est encore avant la guerre de 40, on est encore avant la crise écologique, donc les étapes actuelles sont, l'amplification est encore plus grande, elles sont extraordinairement difficiles à absorber si les ressources que vous avez dans votre tête sont celles d'une séparation complète entre le domaine scientifique et technique qui s'émanciperait d'un côté et le domaine des valeurs, au sens très large du terme, de l'art, de la politique, etc. Il n'y a aucune ressource pour absorber le phénomène auquel vous êtes affronté. Et donc, je pense qu'une des grandes parties, une des grandes difficultés de cet avenir du futur, c'est que si vous lisez le grand récit d'émancipation, vous avez une histoire moderniste, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'histoire, nous échappons et nous rompons avec le passé, et on vient d'entendre tout à l'heure un certain nombre de ces étapes, mais dans le domaine de l'histoire des sciences, elles sont évidemment plus longues, parce qu'elles remontent pratiquement un siècle avant. La notion de révolution scientifique est d'abord un terme scientifique qui est ensuite emprunté en politique, voire le livre de Cohen sur cette question. Donc la révolution est d'abord un terme scientifique qui entre ensuite en politique à la fin du XVIIIe siècle. En gros, c'est Lavoisier qui, le premier, utilise la notion de révolution scientifique au sens de rupture avec le passé et qui est ensuite absorbée par la révolution politique. Lavoisier, d'ailleurs, n'a pas de chance avec cette révolution politique, comme vous le savez. La notion de rupture avec le passé est donc un tout petit peu plus ancienne dans le cas des sciences. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux récits d'émancipation, ce récit d'émancipation croissante est absolument contraire à la pratique qui est au contraire une multiplication des attachements, c'est-à-dire une confusion de plus en plus grande, une intimité de plus en plus grande entre les organisations et les inventions des organisations. Pensez à ce qui commence à la fin du XIXe siècle, qui est la grande entreprise. La grande entreprise industrielle existe déjà, mais la grande entreprise commerciale commence à se développer de façon massive, et les découvertes en chimie, en biologie, etc. La guerre, évidemment, va multiplier encore ces attachements. Comment des artistes, des intellectuels, des politiques même, les juristes ont un peu plus de chances pour absorber ce genre de choses, parce que les juristes sont plus capables d'absorber par des fictions juridiques une multitude d'événements. Mais comment des philosophes, des artistes, etc., peuvent absorber une histoire dans laquelle les attachements se multiplient depuis, à une échelle démultipliée depuis trois siècles, avec en tête une définition de ce qui se passe qui suppose une émancipation croissante. Le futur, qui était le rompre avec le passé, n'a pas du tout la même teneur, la même qualité, la même sensibilité dans les deux récits. Et c'est pourquoi je pense que l'intérêt et la difficulté, le caractère symptomatique, disons, du mouvement futuriste, c'est d'être une des étapes dans cette histoire, l'histoire qui est l'histoire de l'impossibilité pour les modernes d'avoir un futur, en quelque sorte. Un futur qui soit un futur qui correspondent à leurs pratiques. Ils ont un futur qui correspond à l'idée d'émancipation, mais pas un futur qui correspond aux pratiques. C'est pourquoi j'avais proposé, il y a quelques années, que nous n'avons jamais été modernes, précisément pour cette raison. C'est-à-dire que l'histoire n'a jamais été moderne. Moderne a toujours été une interprétation sur une histoire qui a fait tout à fait le contraire. Et les mouvements artistiques, jusqu'à la fin, la destruction des avant-gardes et leur remplacement par le postmodernisme, c'est l'histoire d'une multitude d'efforts, en quelque sorte, pour absorber ce paradoxe, cette aporie qui fait que les modernes héritent d'une histoire qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est une histoire d'attachement alors que toutes leurs ressources intellectuelles sont supposées être des affaires d'émancipation. Les sciences, d'un côté, on est de plus en plus objectifs et de l'autre côté, on serait de plus en plus subjectifs, libérés, indépendants, autonomes, individuels, etc. Et il se passe tout à fait le contraire. Nous sommes, au contraire, à l'époque actuelle, en plus, donc c'est pas d'ailleurs, je pense qu'il y a un lien étroit entre postmodernisme et crise écologique. La nature même de notre situation fait que le futur tel qu'il était imaginé dans le grand récit Émancipation croissante a disparu et on ne sait pas par quoi on le remplace. Donc la flèche du temps moderniste, elle a perdu en quelque sorte, elle a eu une cohérence probablement très brève. Alors on peut chipoter sur les dates, quand est-ce qu'elle commence. En gros, l'idée de front de modernisation commence probablement dans ces 1830, disons, pour se mettre d'accord sur une date, et finit en 1970 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire le moment où on peut ranger sur un front de modernisation, que j'ai mis à droite, de façon assez claire, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'objets, un certain nombre de formules d'habitation, etc. Et clairement, les autres sont archaïques. Vous sentez que vous êtes moderne, moderniste, il faudrait dire, si vous êtes capable de faire ce rangement. Si vous savez ranger des dispositifs techniques, des machines, des valeurs morales, des lois éventuellement, des positions politiques en fonction de cette flèche du temps, et que y a celles qui sont archaïques ont clairement une tonalité différente de celles qui sont en avant, et surtout que c'est un vrai front de modernisation. J'utilise front de modernisation comme on dit front pionnier en Amazonie, c'est-à-dire elles sont liées entre elles. Une position morale, un type d'objet technique, un type de choses qui va ensemble, tout ça définit un front de modernisation. Mais vous voyez que maintenant, on pourrait faire un test dans cette salle, d'ailleurs, pour savoir si vous êtes moderniste ou post-moderniste, parce que le petit dessin de Pessin était très amusant pour ça, à propos d'une technique assez classique qui est le râteau. Mais si on prend le tramway, par exemple, le tramway, vous le mettez où ? Il est où, le tramway ? Il est dans le passé ou il est dans le... Il se trouve que le tramway est devenu un des objets d'avant-garde, alors qu'il avait été d'arrière-garde. Et le tramway est juste un symbole ou un exemple d'une multitude d'objets. Il est vrai la même chose dans des positions morales. L'exception française, est-ce que c'est un terme d'avenir ou est-ce que c'est un terme réactionnaire ou est-ce que vous la bêtez dans cette flèche du temps? C'est devenu compliqué. Et c'est pour ça, je voulais juste finir sur un des penseurs qui a été le plus loin dans la redéfinition de cette aporie, disons, qui est Sloterdijk, quand, dans Sphère 3, il propose justement de réinterpréter l'histoire révolutionnaire sous le terme d'explicitation, en disant l'histoire est celle de l'explicitation et non pas de la révolution ou de l'émancipation. Et l'expression d'explicitation est très intéressante parce que ce qui rend explicite dans la perspective de Sloterdijk, c'est précisément l'échelle de transformation des techniques, des sciences et des humains. Comme vous le savez, si vous connaissez un peu l'œuvre de Sloterdijk, c'est un des rares philosophes qui s'intéresse sérieusement aux sciences et aux techniques et qui ne fait pas partie de ces technophobes qui supposent un arrachement progressif des machines et des humains, et pas non plus la version euphorique qui est celle des post-humains, mais au contraire un intérêt pratique, un intérêt sphérologique, selon l'expression de Sloterdijk, pour quelque chose qui est l'habitat, les conditions d'habitat, les conditions matérielles de l'habitat humain. Et l'explicitation, chez Sloterdijk, c'est un terme très intéressant comme alternative à la notion de révolution. La notion de révolution a une histoire en science, comme je l'ai dit, on le voit dans le livre de Cohen sur l'histoire de la révolution, mais surtout dans le livre de Bernard Yack, qui s'appelle « Longing for Total Revolution », la recherche d'une la révolution totale, qui est probablement un des meilleurs livres sur cette philosophie de ce qui va devenir le fond de commerce ou le fond de sauce des artistes dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier l'idée de table rase, l'idée de rénovation totale des humains. Et chose intéressante, Yack, dans son livre, le fait partir de Kant et explique cette notion de révolution, du désaccord, au fond, de la désappointement des Kantiens pour la révolution, de Kant lui-même et des Kantiens pour la révolution française. En gros, à partir de Kant, je résume très vite l'argument de Yack, le seul moyen pour un révolutionnaire, c'est la réforme de l'homme total, l'homme tel qu'il est, avec son passé n'est pas suffisant pour, à la hauteur de la révolution. Et Yack montre très bien, il prend tous les grands Allemands, il mène l'affaire jusqu'à Nietzsche, mais si Yack continuait, on pourrait le mener probablement jusqu'à Badiou inclus, probablement, en prenant tout le siècle dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'association du mot révolution et du mot total. Total qui a aussi donné totalitarisme, mais qui a aussi cette idée très étonnante qu'il n'y aura pas de révolution s'il n'y a pas une rénovation totale du matériel humain qui n'est pas capable, en quelque sorte, depuis la Révolution française, d'absorber, d'être à la hauteur, disons, de la mission politique qui est donnée par la Révolution. Donc on a le livre de Yack est très intéressant sur l'histoire de cette notion qui n'a évidemment plus aucune espèce de prégnance politique, sinon dans des marges sous forme d'archaïsme, en quelque sorte. Enfin, archaïsme, c'est un terme difficile à utiliser dans la perspective de ce que je dis là. Marge, disons, de marge, pour ne pas donner un terme plus fort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui peut remplacer ce terme de révolution totale dans une perspective du grand récit alternatif, celui des attachements et pas des émancipations dont je viens de parler. Et la notion d'explicitation de Sloterdijk est extrêmement riche, parce que ce que Sloterdijk propose d'appeler explicitation, c'est la découverte progressive à chaque étape de cette insertion dans les attachements des éléments nécessaires à l'habitat. Donc si vous avez lu Sphère 3, il y a une très belle définition de l'explicitation. L'air, par exemple, dont nous ne savions pas que nous pouvions manquer, le jour où la première guerre des gaz à Ypres, en 1917, commence à faire suffoquer les soldats des Alliés, brusquement, l'air qui était donné, qui était une évidence, on ne pouvait pas jouer avec, on ne pouvait pas le manipuler, devient explicité. On s'aperçoit qu'il peut manquer. Vous voyez, ça réinterprète complètement la façon dont l'histoire avance. Ça n'est pas une histoire de l'histoire n'est pas celle de l'émancipation, dit la Révolution, la table rase, mais l'histoire de l'apprentissage par un collectif toujours plus vaste du nombre de conditions nécessaires à sa survie, des conditions de son habitat. Et c'est pour ça que Sloterdijk est un philosophe aussi important, même s'il écrit un peu beaucoup trop, mais à mon avis, mais ça est difficile à suivre parfois, parce qu'il écrit trop de livres, c'est des choses qui arrivent parfois aux auteurs. Mais je pense qu'il est très important parce qu'il est le premier à donner une alternative sensible. Il est lui-même qui dirige, comme vous le savez, une école d'art à Karlsruhe. Ce n'est pas par hasard que sa philosophie est très influencée par les artistes contemporains. Des artistes, par exemple, comme Olafur Eliasson, qui était vendredi à Sciences Po, où je l'avais invité. Et c'est très intéressant de voir que Sloterdijk propose une alternative à ce double récit d'émancipation ou attachement. L'explicitation, c'est un terme d'émancipation, puisqu'on s'aperçoit de ce qui manque, de ce qui pourrait manquer à nos conditions d'habitat, et en même temps, c'est un terme d'attachement, puisqu'on s'aperçoit que si on manque de ces conditions d'existence, on meurt. Donc le futur, et je pense que c'est très important pour l'art contemporain, le futur art contemporain ne sera pas un art contemporain qui sera associé avec la notion d'émancipation ou de révolution, mais avec la notion d'habitat, de sphère et d'explicitation. Et c'est tout à fait caractéristique que, j'allais dire, un chercheur, un artiste comme Olafur Eliasson soit lui-même cité par Sloterdijk et cite Sloterdijk. C'est exactement le même genre d'esprit du temps. Dans les deux cas, c'est-à-dire c'est des artistes pas critiques, la notion de critique n'a plus aucun sens dans cette perspective, mais par contre ce sont des artistes qui s'intéressent à élaborer ou rendre explicite ou rendre sensible, ce qui est après tout un but de l'art, les conditions d'existence d'un collectif humain et avec ses êtres associés. Et donc je pense qu'il y a puisque c'était ça la demande qui était faite, c'était quoi l'avenir du futur? Le futur moderniste n'a pas d'avenir, si je peux dire. Il n'a pas d'avenir puisqu'il suppose une flèche du temps qui continue à raconter une histoire d'émancipation alors que notre histoire est celle d'attachement. Donc ça, c'est pareil assez clair. Et on voit bien que ce n'est pas par hasard que les avant-gardes finissent tous au même moment, c'est-à-dire au moment où le postmodernisme se développe. On peut mettre la date à un moment. En gros, les crises écologiques vont prendre le relais de la difficulté de la flèche du temps. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le passé, c'est la suite. C'est-à-dire quelle est la version originale qui va prendre le relais de la définition du futur. Et je pense que la notion d'explicitation, telle que la Sloterdijk l'ajoute, devrait intéresser beaucoup les artistes, parce qu'elle est vraiment... elle reprend l'histoire occidentale d'une façon non moderniste, et pas non plus naturellement postmoderniste, qui ne présenterait plus aucune espèce d'intérêt. Juste pour vous rappeler l'argument, un autre livre de Sloterdijk, qui est Le palais de cristal, qui est un livre sur le capitalisme, qui est un livre très intéressant. L'idée de Sloterdijk dans ce livre, c'est de prendre comme métaphore de ce travail d'explicitation et de cette construction d'habitat artificiel dans lequel nous allons passer le reste de notre futur. L'exemple du palais de cristal, cette grande ouvrage industriel du milieu du 19e siècle, qui était la première grande architecture de fonte et de verre, et qui contenait à l'intérieur de lui-même l'ensemble de tous les produits de l'époque. Produits industriels et artistiques de l'époque. Et donc, j'ai choisi cette image parce qu'elle est aussi totalement contraire au futurisme que l'on peut imaginer comme une espèce d'anti-futurisme. C'est-à-dire, cette idée d'accumulation à l'intérieur d'un espace artificiel de la multitude hétérogène des œuvres d'art et d'industrie de l'époque. L'époque, c'est 1851. On est 40 ans avant le futurisme. Mais on voit bien qu'on est là dans quelque chose qui est complètement l'antipode, en quelque sorte, de l'esprit la table rase. On est au contraire, on construit une sphère artificielle qui est elle-même une prouesse technique avant-gardiste à l'époque, l'architecture, et à l'intérieur s'entasse une espèce de palais de l'industrie et des arts. C'est la première grande exposition universelle qui va être imitée. L'équivalent, 50 ans plus tard, on voit toujours, c'est la grande verrière du Grand Palais, qui est le même esprit à l'intérieur duquel. C'est un nouvel espace artificiel à l'intérieur duquel se trouvent accumulés les produits de l'industrie, depuis le salon de l'auto jusqu'à de multiples œuvres, expositions artistiques. Et donc le futur que raconte Sloterdijk dans le palais de cristal, c'est pas, je finirai sur cette dernière diapositive, c'est pas un futur, c'est pas un futur moderniste. On a un choix, si on peut dire les choses aussi simplement. Choisir son futur, c'est choisir le futur tel qu'il est défini dans la flèche du temps moderniste et tel qu'il est défini dans la flèche du temps que j'appelle cosmopolitique. C'est-à-dire que la seule chose dont nous soyons sûrs dans la flèche du temps cosmopolitique, c'est que les attachements et les médiations ne vont pas disparaître, mais augmenter. La grande vertu, et c'est pour ça que quand on regarde les futuristes, on les regarde avec quelque nostalgie. Il y a les aspects plutôt sympathiques, amusants, de talibans avant la lettre, qui sont finalement enfantins par rapport aux destructions que la guerre de 14 elle-même va faire. Donc, je veux dire, c'est quelque... Le nihilisme des futuristes a été beaucoup exagéré. Je veux dire, ils sont un peu, ils aiment les gens qui jettent quelques bombes et on tue ensuite des millions de gens. Je veux dire, c'est pas les échelles du nihilisme entre les futuristes et la guerre de 14 ne sont pas vraiment quand même les mêmes. Mais on les regarde avec nostalgie parce qu'il y avait cette idée d'une naïveté charmante finalement chez les futuristes que le futur va être le détachement des contraintes et des médiations. Et que donc on va avoir moins à prendre en compte l'ensemble des choses dont nous avons hérité. Détruisons, pour un Italien gorgé des splendeurs de son pays, c'est aussi, on n'a pas à prendre en compte tout cet héritage. Donc demain, il y aura moins d'éléments à prendre en compte qu'hier. Et donc la flèche du temps va dans une direction complètement différente. Elle va de beaucoup d'attachements compliqués, de précautions à prendre, etc., à un futur où il y en a moins. Et évidemment, c'est ce futur-là qui nous manque maintenant. Plus personne n'imagine un futur de ce genre-là. Le futur que nous avons à prendre en compte est un futur où il y a infiniment plus d'éléments d'attachement et de médiation et de précaution à prendre en compte que dans le passé. C'est vrai aussi bien de notre alimentation que de l'ensemble des dispositifs techniques, que du nombre d'humains, que des questions de sécurité, etc. Personne, c'est en ce sens-là que nous avons changé de futur. Personne n'imagine un futur où l'émancipation serait la seule définition et où on pourrait dire, bah, demain, nous allons prendre en compte moins d'éléments et il y aura moins de médiation et du passé faisant table rase. C'est précisément là où il y a une variation intéressante et où le mouvement futuriste apparaît à la fois comme un symptôme d'une période et d'une énigme, d'une période particulièrement intéressante. Et félicite le Centre Pompidou d'avoir fait cette exposition. Et en même temps, d'une définition de l'esthétique et de son rapport avec la politique complètement, alors là, complètement datée. C'est-à-dire qu'aucun mouvement, même si la suite des mouvements qui ont été présentés dans l'exposé précédent donne quelques traces, mais ce sont des traces de plus en plus archaïsantes, en quelque sorte, être futuriste aujourd'hui, ça serait comme de peindre à la façon de Raphaël. Rien dans l'esthétique et dans la définition même de ce que c'est que le futur et l'invention n'est plus réutilisable. Donc c'est ça qui m'avait intéressé dans la participation à cette exposition et les quelques notes que je voulais faire pour lancer la discussion. Je vous remercie.
Est-ce que je pourrais vous demander si cette explicitation et l'attachement, est-ce qu'on pourrait le dire autrement et je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait dire, vous nous proposez une espèce de, ou Sloterdijk, une espèce d'évolution soft avec beaucoup d'attachement au passé et c'est ça ce que vous pensez ou c'est ce que vous proposez? C'est-à-dire, au lieu de prendre le mot explicitation, vous pourriez éventuellement prendre le mot évolution soft, comme ça tout le monde va évoluer vers quelque chose et vous consolez avec l'attachement, c'est ça?
Ça dépend comment vous prenez évolution. Explicitation, c'est un terme tragique chez Sloterdijk, c'est pas un terme soft. L'explicitation de l'ère à Ypres en 1917, c'est pas soft. C'est brusquement les conditions de vie disparaissent. L'explicitation dont on a besoin maintenant dans les situations de crise écologique, c'est pas du tout soft. C'est question de vie ou de mort. Donc ce sont les mêmes questions du point de vue des passions politiques que celles que traite la notion de révolution, naturellement, mais avec une définition complètement différente du futur. Donc cette question est intéressante parce que justement, il n'y a rien d'évolutionniste. Ça dépend ce qu'on entend, l'évolution.
Oui, non, je voulais être sûr que de bien comprendre. Moi-même, je suis philosophe, je suis allemand. Et moi, je suis très connecté avec Heidegger et Sartre et avec Stephen Hawking. Et Heidegger et Sartre, ensemble, ça donne une mixture incroyable. Hein. C'est-à-dire, c'est se jeter dans le néant, d'accepter l'évolution par le moment de sa conscience. Et Stephen Hawking qui dit la matière, la lumière et le temps a toujours existé. C'est comme ça, on a toujours existé. Il n'y a aucune autre question à se poser. Et donc, nous sommes là avec la philosophie de Sartre. L'existence précède l'essence. L'antagonisme de l'être en soi et de l'être pour soi nous jette définitivement et fatalement dans une espèce de liberté totale. Donc, moi, quand vous me posez cette question de l'avenir, moi, je pense que oui, il y a un avenir, mais un avenir qui est non défini, c'est-à-dire dans toute l'histoire, 6 millions d'années de l'existence de l'être humain sur cette Terre, il y avait donc des concepts métaphysiques divers, mais pour la première fois, nous sommes dans un espace vide, totalement vide, on n'a aucune attache, et nous devons simplement poser la question, est-ce que je m'achète un pistolet et je me tire une balle dans la tête ou je continue à vivre? Et si c'est la deuxième question qu'on choisit, il faut quand même se donner du courage. et pourquoi on a envie de vivre. Et donc, nous essayons actuellement de dire aux gens que ce qui n'est pas important, ce n'est pas d'être à la dernière développement de la technologie ou de faire la table rase, mais il faut voir la capacité psychique de chacun de trouver son bonheur dans son type de vie. Et, mais on peut avoir une espèce de avant-garde en quelque sorte, mais une avant-garde qui n'émet aucune doctrine, n'est-ce pas, mais qui pourrait être une espèce de torche dans la lumière, de la lumière dans l'obscurité. Et nous pensons que c'est actuellement le principal sujet de toute la philosophie, de l'histoire de la philosophie, c'est de dire nous ne pouvons pas émettre une valeur de progrès absolu. Si on le faisait, nous nous mettrions à la place d'un Dieu créateur. Et puisque ce Dieu pour nous n'existe pas, nous pouvons dire simplement il y a des éclaircies dans l'histoire de l'humanité, de la philosophie. Et les dernières éclaircies, c'est cette inspiration mutuelle entre Kierkegaard, Heidegger, Husserl, Callias, Passan Arendt et Merleau-Ponty et Sartre. Et cette éclaircie, elle est là. Et je pense que nous devons simplement dire on avance, on ne sait pas où on en va, on ne va pas être radical. Et on ne laisse pas les attachements à côté, bien sûr. Et chacun son bonheur à son niveau, à sa manière. Et de ne surtout pas être radical et brutal, quoi.
Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez nous préciser la notion d'attachement ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris cette notion donc de multiplication des attachements. Et donc c'est pour ça que je voulais aussi demander si cette phase que vous nous avez montrée dans votre diagramme de la prise en compte de nouvelles conditions écologiques qui quelque part remettent vont remettre en question beaucoup de choses pour le futur, donc d'où vous nous avez montré l'image humoristique du retour au râteau, ou bien comme vous nous disiez, est-ce que le tramway est postmoderne, ou bien c'est notre passé. Donc est-ce que le futur n'est pas justement dans le détachement, si l'on en revient au râteau ou si on revient au tramway, est-ce que on n'en revient pas justement à une optique où l'on doit prendre en compte un nouveau mode d'action et de vie qui implique un détachement. Voilà, donc je ne suis pas sûre d'avoir compris cette notion. Merci. Non,
c'est une bonne question. Et le génie de Pessin fait que ce petit dessin-là peut être interprété dans les deux sens. C'est-à-dire il peut être interprété comme un argument, disons, assez classiquement réactionnaire en disant le râteau, finalement, on va revenir au râteau, au bon vieux râteau d'autrefois, et on va revenir au sens commun et s'engager dans une décroissance, pour reprendre une expression devenue à la mode. Où on peut le considérer, vous remarquerez que dans le dessin, il ne dit pas que c'est un râteau, il dit que c'est un outil éco-compatible. Ce qui veut dire que dans le dessin intermédiaire, au milieu, il y a dû probablement avoir toute une affaire, et c'est là où je vais redéfinir les attachements, dans lequel on s'aperçoit que le souffleur pollue, qu'il est lourd probablement à porter sur le dos, donc il bouche les oreilles des ouvriers qui sont etc. Qu'il se trouve lié, si on ne peut pas utiliser le mot attachement, à une multitude d'autres éléments qui le mettent en cause. Donc attachement, c'est l'expérience quotidienne que nous avons. Lorsque vous commencez, pour prendre l'expression usuelle des économistes, une activité où vous avez externalisé tous les éléments, par exemple, manger un beefsteak, et où vous apercevez soudainement que ce beefsteak se trouve attaché, réattaché par l'intermédiaire d'une campagne à la fois des écologistes et des scientifiques, à la plus grave pollution due aux pets de vaches à travers le monde. Donc, brusquement, quand vous avez lu 3 articles sur le fait que les pets de vaches polluent davantage que toutes les automobiles réunies, ce steak que vous étiez en train de commencer à couper avec votre couteau, vous est resté suspendu parce qu'il se trouve attaché à la pollution, rattaché à la pollution, alors que vous espériez externaliser tous les éléments hors du steak. Je mange mon steak. Et si vous dites au restaurant, donc je ne mange pas de steak, je prends du thon rouge, le thon rouge aussi se trouve attaché maintenant et rattaché à des problèmes de pollution, de surexploitation, en particulier en Méditerranée, etc. etc. Et ce qui est intéressant dans toutes ces questions écologiques, c'est que vous n'allez pas sortir rapidement de cette affaire. Parce que si vous dites, donc maintenant j'ai compris, j'utilise un râteau et une éolienne, brusquement vous avez Giscard d'Estaing sur le dos avec tout un groupe de gens qui vous disent que les éoliennes sont maintenant devenues un des graves, les pires dangers contre la nature. Il y avait d'ailleurs un très joli dessin, non pas de Pessin, mais de l'autre, de Sergueï dans Le Monde l'autre jour, dans lequel on voyait quelqu'un qui se plaignait des éoliennes qui est en train de dire « Je suis contre l'écologie pour la nature ». Et brusquement, le gars lui disait « Mais attendez, il faut savoir ce que tu dis ». C'est ça, les attachements. C'est-à-dire que ce qui était formidable chez Marinetti, c'est de pouvoir dire « Je me débarrasse de tous ces attachements et ce qui va extraire de tous ces attachements, c'est la technologie pure ». Ce qu'on voit d'ailleurs peu, alors c'est peut-être le premier futurisme, peut-être plus que le deuxième, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais dans le deuxième futurisme que j'avais vu au Palazzo Grassi il y a quelques années, une très belle exposition aussi, l'importance de la technologie pour les futuristes est extrême, c'est-à-dire la capacité d'extraire la technologie pure, en quelque sorte, purifiée de toutes ces attaches humaines, sociales, culturelles, etc., et de toutes les conséquences inattendues, dont entre autres des morts. Maintenant, c'est impossible. C'est ça l'attachement. C'est-à-dire que vous n'avez plus de technologie, vous n'avez plus d'éléments, que ce soit ce souffleur ou que ce soit le tramway ou que ce soit... L'autre jour, j'ai discuté avec un chercheur de l'INRA qui parlait des haies, des nouvelles haies, H-A-I-E, qui sont maintenant en train d'être replantées. L'INRA produit maintenant des haies high-tech, donc qui sont éco-compatibles aussi, qui ne sont pas des anciennes haies qu'on a arrachées. Il me disait, oui, il était lui-même fils d'agriculteur, il disait, mon père, il croit toujours à l'agriculture moderne. Donc c'est un chercheur de l'INRA qui travaille sur des haies de haute technologie, c'est-à-dire qui intègre des tas d'espèces différentes, qui parlait de son père moderniste des années 60, qui lui, évidemment, avait coupé les haies au nom de l'INRA moderniste, modernisatrice des années 60. Donc c'est ça, les attachements. C'est-à-dire que la possibilité d'imaginer, prenez le principe de précaution. La multiplicité du thème du principe de précaution, c'est typiquement une question, c'est exactement le symptôme du même phénomène. L'idée que vous allez vous débarrasser de tout ça et que vous allez enfin avoir un bel objet moderne qui externalisera toutes ces conséquences inattendues, c'est complètement passé. Ça, c'est passé. Ça, c'est l'archaïsme des modernistes. Et donc, c'est ça qui rend notre période intéressante et un débat comme celui-ci fort utile. J'espère que je réponds à votre question. Ce qui a passé, c'est l'idée que vous alliez pouvoir isoler des éléments techniques, je veux dire dans la flèche du temps, marque clairement qu'ils sont dans le futur, de leurs conséquences inattendues. Et on pourrait prendre un autre thème qui est celui de la diffusion de la sociologie d'Ulrich Beck, un autre grand Allemand qui est tout à fait typique de ça. La société du risque, chez Beck, c'est exactement ça aussi. Il dit il n'y a plus de conséquences inattendues puisqu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous attendez qu'il va y avoir des conséquences inattendues. Donc ça veut dire que les conséquences inattendues sont attendues. Donc ça veut dire que les objets et leurs conséquences font partie maintenant de notre paysage commun. Le cas des OGM étant d'ailleurs un cas typique. Personne n'est mort des OGM et néanmoins, c'est une affaire mondiale. Ce qui est très intéressant, on se prépare à des conséquences inattendues d'avance. Alors qu'avant, on attendait que les conséquences inattendues éliminent pas mal de gens ou entraînent des catastrophes avant de s'en préoccuper. C'est ça le monde des attachements. Ce qui veut dire que du point de vue il y a des tas de symptômes de ça. Si vous voulez, quand le président de l'Académie des sciences écrit dans Le Monde pour qu'on retire de la Constitution le principe de précaution, au nom du progrès scientifique, il hérite davantage de Marinetti qu'il ne comprend l'époque où il vit. L'idée que le progrès technique doit être détaché de ses conséquences inattendues, et donc il faut enlever le principe de précaution accusé par l'Académie des sciences d'être un ralentisseur d'innovation, quelque chose qui va nous ramener à l'âge de pierre, c'est hérité au fond du même idée moderniste de la flèche du temps dont Marinetti est un exemple. Je pousse peut-être un peu loin, mais la composante technique dans le futurisme est absolument essentielle. Sans ça, vous ne pouvez pas marquer, si vous n'avez pas les objets techniques, vous ne pouvez pas marquer la différence entre le passé et le présent. Ce n'est pas par hasard que c'est la révolution scientifique d'abord qui crée la notion de révolution. C'est parce que vous avez Lavoisier qui rompt avec l'alchimie pour définir sa chimie moderne, d'ailleurs il utilise aussi le mot moderne, en parlant de révolution chimique, là, vous cassez la différence passé-présent. Alors que la génération d'avant, des gens comme Newton encore, considèrent que leur physique, c'est un retour aux connaissances du passé, après un nettoyage, en quelque sorte, du christianisme et de la pollution catholique. Mais quand vous arrivez à Lavoisier, là, c'est une révolution. Et le mot révolution, jusque-là, il y a un très bon livre de Ray sur la notion de révolution. Jusque-là, ça veut dire retour au même. Dès à la fin du XVIIIe, révolution veut dire vraiment rupture avec le passé. Passe ensuite en politique, etc., etc. Maintenant, on ne peut plus être dans une période de révolution, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que les conséquences inattendues soient de nouveau détachables des innovations. Qui parmi vous pense à ça? C'est impossible. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons changé de futur. Il faut que j'enlève le dessin de Pessin.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Finalement, ce dont on parle, c'est le bonheur.
Pardon ?
De ce qu'on parle, c'est le bonheur. Le bonheur, le bonheur, c'est pourquoi j'ai cette force d'affirmer la vie, pourquoi j'ai vraiment envie de vivre, la constitution psychique et le futur, la révolution, ma personne, la révolution personnelle. Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai la force d'aller en avant? C'est ça la plus grande révolution pour chacun de nous. Chacun le fait à sa manière. Et l'avenir, pour moi, c'est ça. On ne se tue pas, on continue à vivre. Et on va découvrir quelque chose d'énorme qui va nous venir de l'univers ou de la recherche fondamentale sur Terre. Un jour, on pourrait toujours tomber à genoux et dire « Alléluia, on a trouvé ». Mais d'ici à là, non seulement nous devons survivre, mais aussi vivre, donc vivre la vie. Donc le bonheur, tout simple, quoi. Je suis bien avec mes voisins, avec ma famille. Je prends plaisir où je peux, sans aller au hédonisme pur et bête. Mais disons, qu'est-ce que ça donne comme sens s'il y a 6 milliards d'êtres humains sur Terre qui produisent des cochonneries pour les distribuer et pour les consommer, et ça n'a donné aucun bonheur. Et donc, à la fois ici, donc ça fait 2 heures que je suis là, donc la principale présentation est votre présentation, ça exclut peut-être délibérément les philosophes. Vous n'avez pas parlé des philosophes, ce sont des vrais révolutionnaires, mais probablement vous venez d'un passé chrétien et vous êtes petit soldat de l'Église catholique, et je comprends, mais il y a des choses qui se sont passées au 19e, au 20e siècle, et nous... Voilà, la question c'est, est-ce que vous croyez que le bonheur, c'est le futur?
Je ne suis pas lancé du tout dans la question du bonheur. Le problème, c'est que cette notion de flèche du temps, il ne faut pas la généraliser trop. Il y a un film hilarant qui a été fait il y a quelques années qui s'appelle L'Odyssée de l'espèce, dans lequel on essaie de construire une histoire proto-humain, des pré-humains sur pratiquement 2 millions d'années jusqu'à maintenant. Et dans tout le film, à chaque... moment où on a un nouvel être simiesque qui devient un peu humain, il est aussi précipité en avant, comme ça. On voit Lucie, par exemple, qui est un des proto-humains, un des ancêtres très lointain, il est discuté d'ailleurs, de la lignée humaine. Et le film la transforme en une petite moderniste, en quelque sorte, qui se lève, regarde dans la savane et se précipite en avant pour un avenir radieux. Et ensuite, elle hérite d'Homo. Ensuite, il y a Homo erectus. Et de nouveau, Homo erectus regarde en avant. Ils sont tous tendus. Or, ça, c'est un anachronisme, disons, et une erreur anthropologique massive. L'idée d'avancer et de se jeter vers le futur n'est une idée très historiquement très, très limitée. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, même l'idée de rupture avec le passé dans la perspective du progressisme a une histoire très, très courte. Et l'erreur, évidemment, c'est l'erreur postmoderne, c'est-à-dire c'est de dire, bon, ben, du coup, il n'y a plus de flèche du temps. Or, ce qui est intéressant, c'est que le modernisme, précisément, comme je le disais, le postmodernisme arrive pile au moment où l'arrivée des crises écologiques suspend la notion de progrès, ne lui trouve pas d'alternative, puisque le postmodernisme hérite des difficultés du modernisme, mais il y a évidemment une flèche du temps. Le problème, c'est que cette flèche du temps suppose une définition complètement différente de l'avenir, et c'est celle qu'un philosophe, Peter Soderac, dans l'exposé que j'ai fait, a présenté. Je ne me suis pas du tout lancé dans une question du bonheur sur laquelle je n'ai pas de compétences particulières.
Oui, à propos d'attachement, si j'ai bien compris, il y a une longue tradition quand même.
À propos de quoi, pardon ?
À propos d'attachement. Depuis Moore, depuis les premières utopies, il y a toujours une tradition avec l'architecture et la conception de la ville de sortir l'homme de la nature. Dans les visions des utopies, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux. Les individus ont des fonctions, c'est absolument terrifiant. Et tout ça jusqu'à Fourier. Et là, maintenant, vous nous parlez donc de ce futur avec le retour à l'écologie. Alors, c'est quand même troublant parce qu'on a eu plusieurs siècles où, manifestement, ce qui était de l'ordre de la nature écologique, que je confonds là à dessein, était vraiment en dehors de toute prospective pour l'humanité. Et là, vous parlez d'écologie. Alors, c'est quelle révolution ?
Les utopies, il n'y a pas d'animaux dans les utopies ?
Non, rien du tout, non. C'est complètement détaché de toute...
C'est des humains ?
Les humains ne sont même pas gérés comme des... Oui, ils sont même en dessous des animaux. Oh, les humains, ils n'ont que des fonctions. Hein. Ils sont chacun dans leur petite case. Enfin, c'est une fourmilière, si vous voulez. Mais les humains n'ont aucune possibilité d'indépendance dans ces... Dans l'architecture conçoit le mode de vie. C'est complètement hallucinant. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais maintenant, justement, le retour de l'écologie, tel que vous l'avez évoqué, à travers l'attachement, l'exemple du steak ou autre. Alors, justement, cette révolution, c'est une révolution... ça n'a pas l'air d'être une rupture, apparemment, puisqu'on revient sur cette nature.
C'est pas une rupture, mais c'est une explicitation du fait que l'existant... Regardez, le cas que je suis en train d'étudier avec mes élèves est tout à fait étonnant sur la question des abeilles. Brusquement, on s'aperçoit que non seulement les abeilles sont en train de disparaître, mais que les abeilles ont un rôle de commensaux et un rôle économique, en particulier aux États-Unis, de pollinisateur d'une multitude de végétaux, de fruits et de légumes, qui fait qu'on en est à identifier les pertes en cas de disparition des abeilles à des centaines de milliards. Ce n'est pas les centaines de milliards de la crise financière, ce sont les centaines de milliards de la disparition des abeilles, par exemple. Et on voit très bien que là, c'est une explicitation. Personne, enfin, à part les spécialistes des abeilles, personne ne considérait que la quantité, l'économie dont nous dépendons des légumes et des fruits dépendait elle-même de la présence des abeilles à l'intérieur de la sphère. C'est là les différences avec l'écologie. Et si vous êtes architecte ou si vous connaissez l'architecture, c'est justement l'intérêt de l'exemple du palais de cristal de Sloterdijk, c'est une internalisation et ça n'est pas un retour à la nature. Et là, Sloterdijk et moi, on est tout à fait d'accord sur la critique de la notion de nature. D'ailleurs, elle est critiquée de mille façons différentes. Donc ce n'est pas écologie au sens de nous aurions une histoire humaine et nous passons à une histoire naturelle. C'est le contraire. C'est que enfin, des éléments qui étaient extérieurs à l'histoire sont explicités et internalisés à l'histoire. Et là, c'est pour ça que la métaphore du palais de cristal, c'est aussi une métaphore de la serre artificielle à l'intérieur duquel nous allons construire des relations explicites et non plus simplement implicites entre, pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, les abeilles et les parasites, puisque c'est plutôt nous les parasites humains. Donc ça n'est pas une écologisation, c'est un point très important de l'argument que j'ai fait dans les politiques de la nature et qui est repris par Stoterdijk, c'est que le futur n'est pas un futur naturel, ça n'aurait aucune espèce de sens. La nature est un des problèmes justement que les modernistes ont créé, c'est ce que j'ai montré dans « Nous n'avons jamais été modernes ». Et ce qui est intéressant, au contraire, c'est l'avenir, c'est la construction de ces sphères artificielles à l'intérieur duquel de plus en plus d'éléments qui étaient extérieurs sont explicités. Donc, par exemple, le virus de la grippe aviaire. Et vous ouvrez le journal, c'est ce que je fais avec mes élèves. Vous ouvrez le journal et chaque jour, vous êtes obligé d'intégrer des nouveaux objets à l'intérieur. C'est ça qui rompt la flèche du temps moderniste. Parce que l'idée que vous allez vous en débarrasser et que donc demain, vous aurez à prendre en compte moins de ces êtres qu'hier, c'est ça qui a changé. Et précisément, l'association qu'on faisait du temps du futurisme entre sciences techniques d'un côté et élimination des contraintes ou des attachements, elle est plus faisable, puisque c'est dans les sciences et les techniques, et largement à cause d'elles, que le nombre d'attachements augmente. Et que donc, il vous faut maintenant non seulement les abeilles, mais les spécialistes des abeilles. Et paf, vous vous trouvez maintenant avec les spécialistes des abeilles qui deviennent centraux pour la définition de ce que c'est que l'économie du... pour simplement avoir des fruits et des légumes sur votre table. Et c'est ça qui est nouveau. Ça, c'est complètement nouveau. Et ce n'est pas absorbé par la philosophie, évidemment. Les philosophes sont toujours très en retard dans ce genre d'affaires. Mais, chose curieuse, très peu par les arts. Les arts sont toujours dans la queue de comète moderniste puis postmoderniste. Donc, ils sont toujours dans l'espèce d'archaïsme, si on peut dire. Sauf quelques artistes assez rares, finalement, comme Eliasson ou les autres. Je ne sais pas si ça répondait à votre question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons faire une pause et nous reprendrons à 16h30 pour la première table ronde.